à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Diret et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferréférant. Comment ça va Pierre après ce long été ?
Ça va super bien, j'ai fait des bonnes vacances en France, je suis requinqué.
Mais écoute, pareil, hein, donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y avait pas d'épisode en août. On a essayé de peut-être le faire, mais voilà, comme c'était prévisible, on était tous très occupés à faire d'autres choses. Et comme on n'était pas trop au boulot, on n'avait pas grand-chose à se raconter au final.
En plus, ouais.
Donc, nous voilà partis pour une nouvelle rentrée podcastique, notre première. J'espère pas la dernière. Au programme de ce mois-ci, donc, livraison agile, comment synchroniser sans coupler. Je suis venu à ce titre, mais c'était à peu près ça. C'est une problématique qui nous vient de Pierre.
Ah, exact, c'est une problématique qu'on a actuellement au boulot. Alors on a que, avec des guillemets, deux équipes, mais c'est vrai que c'est une problématique qui, bah, pour le coup, se pose dès qu'il y a plus d'une équipe. Donc ça paraissait raccord, surtout avec le principe agile du mois.
Absolument, oui, le principe... Agile du mois qui n'est pas dans le programme, mais on parlera. Donc, on parlera de nos problématiques actuelles. Du coup, on va citer notamment du shape-up de mon côté et avoir et puis bah, pour Pierre finalement la problématique que tu viens de citer avec avoir deux équipes qui travaillent sur le même produit. On parlera des outils de l'épisode, mais pour commencer, comme tu mentionnais, le principe agile du mois de septembre. Qui nous dit livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Et donc ça t'a beaucoup inspiré.
Ça m'a beaucoup inspiré, c'est surtout que c'est beaucoup d'actualité au boulot, donc c'est en accord parfait. Alors du coup, pour commencer, il y a un truc qu'il faut donc bien se remettre en tête, c'est-à-dire que le Manifesto Agile a été écrit depuis maintenant un petit moment, on parle de quelques dizaines d'années maintenant, enfin quelques, deux, mais bon. Et donc du coup, une des choses qui est importante, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs souvent mis en avant, et je crois c'est même une des personnes qui a contribué directement au Scrum Manifesto, qui a d'ailleurs dit, avec le recul maintenant, donc ils ont évidemment écrit quelques semaines et quelques mois à l'époque, mais puisque à l'époque, évidemment, on avait des contraintes bien plus importante, des phases de développement qui étaient beaucoup plus longues, ça prenait un temps beaucoup plus long. Et du coup, là où on parle, donc le principe a été écrit avec quelques semaines à quelques mois, on parle réellement plutôt de quelques semaines, si ce n'est quelques jours réellement aujourd'hui. Donc c'est le premier point que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire que, comme toujours, de bêtement suivre ce qui est écrit, ça n'a pas de sens. Et sachant que même la personne qui a mis en avant ce principe a dit aujourd'hui, c'était il y a quelques années, je crois, dans une interview, qu'évidemment aujourd'hui, c'était à réécrire, ils écriraient quelques semaines et jours et non plus quelques semaines et mois. Donc ça, c'est le premier point au niveau de la temporalité. Le deuxième point sur lequel je vais insister, donc c'est au niveau de opérationnel. Et donc du coup, c'est surtout ce truc-là qui est le plus difficile, parce que quand on lit livrer fréquemment un logiciel avec des cycles courts, enfin ou le plus court possible, ça paraît relativement faisable. Sauf que quand on rajoute le petit opérationnel dans le logiciel, là, ça complique tout de suite les choses. Et c'est donc pour ça, pour moi, une des problématiques les plus importantes à prendre en considération quand on parle de faire donc du continuous delivery. Ça va être surtout au niveau du testing, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on met en place de manière à ce qu'on ait des équipes de développement qui puissent avoir un cycle relativement court pour avoir un feedback rapide, qui puissent avoir un pipeline en place qui est relativement simple pour avoir une livraison qui est la plus facile possible, mais du coup comment le testing se met en place et à quel point le testing peut bloquer le développement. Donc ça, c'était une question que je trouvais intéressante à mettre en avant. Sur ce point-là, ça va dépendre évidemment de ce qu'on touche. Donc, par exemple, donc là, je parle au niveau du boulot. On a un testing qui est donc évidemment, donc il y a tout ce qui est de notre côté au niveau du développement, donc les unit tests, integration tests. On a aussi du coup les end-to-end tests, mais on va avoir par exemple dans notre cas des releases qui sont toutes les deux semaines et on va essayer d'apporter en fait un maximum de testing et surtout en fait aux parties qu'on considère cruciales à l'application. Et donc nous, on en a réellement deux. C'est-à-dire la première, ça va être le onboarding, donc tout ce qui pourrait bloquer un potentiel prospect ou lead de devenir un utilisateur. Ça, c'est évidemment notre flow principal puisque c'est l'acquisition de clients direct. Et la deuxième va être tout ce qui va être directement lié aux services financiers qu'on apporte. Donc nous, au niveau des utilisateurs, ils ont accès à un wallet, donc à un portefeuille, donc un compte directement via notre plateforme. Et dessus, ils peuvent donc faire des transferts. Il y a aussi de la conversion de devises étrangères, toutes ces choses-là. Et donc, par exemple, pour nous, même si on livre toutes les deux semaines et qu'on a des tests en place, il va surtout y avoir une attention particulière de porter sur ces deux-là, puisqu'on considère que si on a quelques bugs qui vont être autre part que ces deux features-là, on se sera considéré comme moins grave que si on a un problème soit dans l'onboarding de nouveaux utilisateurs ou dans le transfert, évidemment, de tout ce qui touchera à l'argent de nos utilisateurs. Donc voilà, donc c'est opérationnel, oui, et c'est là où je trouve que c'est justement intéressant et que je trouve qu'on a une approche qui est plutôt bonne, c'est-à-dire de dire on sait qu'on est une start-up, on n'a pas 100 000 développeurs à mettre en place pour être sûr qu'on soit parfait, mais au moins, voilà, on va pas s'assurer que tout est parfait, sinon ça nous prendrait trop de temps, mais on va surtout se focaliser sur ces deux points-là qui sont au niveau du business les plus importants, et je pense que c'est une approche qui est plutôt bonne, c'est-à-dire d'avoir, on va dire, un niveau de testing qui est correct et d'insister uniquement sur les points qui sont vraiment critiques pour le business. Donc voilà, c'est le point que je mettrai en avant et que je pense que c'est d'ailleurs celui que je partage et celui en plus qui est appliqué au boulot, donc c'est parfait. Qu'en est-il de toi, Julien?
Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, je trouve ça particulièrement important, surtout dans un environnement startup où t'as pas des moyens qui sont limités, donc tu peux pas forcément te permettre de vérifier chaque régression partout, mais par contre c'est quand même hyper important d'être capable d'assurer le fait qu'il y ait pas de régression sur les endroits critiques, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est la petite balance à trouver quand t'as pas des moyens illimités.
C'est ça.
De mon côté, c'est une évidence aussi pour moi, comme tu soulignais, le manifesto agile, il est quand même un petit peu vieux maintenant à l'échelle de l'avancement de l'informatique. Donc moi, j'ai jamais connu autre chose que ça. Je suis même pas certain d'avoir vraiment connu un cycle en V en vrai, à part dans les livres ou à l'université. Donc c'est vrai que elle est très très loin à l'époque où il fallait qu'un logiciel soit parfait avant de graver des milliers de CD, les envoyer dans des magasins, et évidemment parce que à l'époque faire une mise à jour ça voulait dire regraver des CD, enfin c'était impensable en fait. Donc avec l'avènement du SaaS et du CI/CD, ça permet quand même d'avoir une boucle de feedback qui est très très courte, et donc comme tu disais, pouvoir shipper plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, dépendant de l'échelle de la boîte et du business, et de son état d'avancement, c'est crucial maintenant, et ça permet en fait non seulement d'aller plus vite, mais ça permet de prendre plus de risques. Pour moi, en fait, c'est ça qui est important, surtout par exemple venant aussi des startups, quoi. Pouvoir prendre de risques techniques, plus de risques business, ça veut dire pouvoir faire de l'A/B testing, ça veut dire aussi pouvoir plus efficacement répondre à des bugs, en fait. Donc le plus rapidement tu peux shipper, le plus t'as de marge de manœuvre, parce que t'as beaucoup plus le droit à l'erreur quelque part, parce que tu sais que l'erreur tu vas pouvoir la résoudre très très vite. C'est pas comme un constructeur de voiture qui va devoir rappeler des milliers de voitures à un coût phénoménal. Là, si le coût c'est juste fixer le problème et cliquer sur trois boutons et ça part et personne l'a vu, c'est plutôt cool. Ça m'inspire aussi un de mes petits combats actuels, qui sont le fait d'essayer d'avoir des plus petites fonctionnalités en fait dans mon burn Kanban au boulot. Parce qu'on livre très fréquemment au niveau de l'entreprise. Après, le fait qu'on ait une application mobile fait qu'on est obligé d'avoir des cycles qui sont relativement longs et une certaine synchronisation, parce que publier l'application sur les différents stores, avoir les reviews, etc., tu es bien placé pour ça. C'est une vraie galère, mais voilà, au niveau de l'entreprise, au niveau du back-end, on arrive à livrer assez fréquemment, mais le lead time sur les épiques est toujours trop long à mon goût. C'est-à-dire qu'on a toujours plein d'épiques en parallèle, donc en fait si tu regardes tout, on a quand même des shipments qui arrivent très souvent, mais si tu regardes, si tu focalises sur une seule épique, tu te rends compte que ça met quand même quelques semaines à sortir. Et voilà, je me dis qu'il y a peut-être moyen quand même de découper un peu plus les épiques, les faire Ou alors avoir une épique et ensuite shipper plus à un niveau user story. Mais il doit y avoir moyen de faire un truc un peu plus court. Mm-hmm. Et après, je sais qu'il y a un niveau en dessous duquel découper, c'est plus efficace. Parce que on ship des choses qui n'ont presque plus de sens finalement. Ouais. Mais je pense pas qu'on y soit. Donc voilà, ce principe agile, il fait écho pour moi au lead time, au cycle time de Kanban, etc.
Mm-hmm. Bah, c'est vrai que de mon côté, ça fait aussi écho au boulot, puisque donc on a deux équipes Scrum, et donc de par le fait qu'on travaille sur les deux mêmes applications en même temps, on a du coup un jour de release qui est coordonné entre les deux équipes, et en plus de ça, évidemment, on a tous les meetings qui vont avec pour s'assurer que les features s'empiètent pas dessus, que quand on va les mettre ensemble, ça va bien se passer. Donc, ouais. C'est une problématique.
Bien se passer. Ce qui nous emmène donc directement au sujet principal qui nous a été apporté par Pierre. Donc livraison agile, comment découpler des équipes, lorsqu'on travaille sur le même produit. Partage donc un petit peu avec nous. C'est un safe space. t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Passer.
Donc du coup c'est vrai que ça fait ça tombait bien avec le principe agile du mois et surtout avec la problématique actuelle. Donc là en fait ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de passer sur des OKR au niveau du business, donc Object Key Results. Donc en gros pour découper les quarters, donc chaque quarter en fait va avoir des OKR associés qu'on va devoir réaliser et donc au moins atteindre, si ce n'est aller au-delà avec mon équipe. Et donc c'est vrai que justement une des problématiques qui va se poser, ça va être au niveau du fait que nous, on voudrait en fait qu'on puisse le lancer le plus rapidement en production, surtout sur des petits expériments qu'on va voir et tout ça, pour essayer d'avoir le retour, donc le feedback utilisateur le plus rapide possible. Et évidemment, on se heurte à un problème qui est le fait qu'on ait deux équipes Scrum qui soient sur les deux semaines, toutes les deux, et du coup, on a le mercredi de release qui tombe en même temps. Donc ça pose déjà un paquet de problèmes, puisqu'en fait, comme on a cette release qui arrive le mercredi et qui est toutes les deux semaines, on ne va pas pouvoir se permettre de flexibilité, par exemple, de pouvoir avoir un sprint d'une semaine ou trois semaines en fonction du problème qu'on va avoir. Donc ça déjà c'est un gros souci, puisqu'on va pas pouvoir être flexible, agile c'est le cas de le dire, au niveau de la durée pour réaliser un travail donné. Donc déjà ça c'est un gros problème qu'on a, et évidemment donc j'en ai parlé avec le directeur of engineering, et donc évidemment le problème qu'on a, c'est que comme on doit toujours livrer en même temps le même jour parce qu'on travaille sur la même chose, on peut pas trop s'en échapper. Donc du coup, c'est pour ça, c'est intéressant aujourd'hui qu'on discute des approches qui existent. Et donc, je ne sais pas si Julien, tu veux commencer avec...
Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, quand j'ai commencé à brainstormer là-dessus, je suis parti sur une approche technique. Et c'est vrai qu'il y a aussi sûrement moyen de le résoudre avec de l'agilité et des process, mais comme tu disais, vous avez déjà des process qui sont assez bien définis. Donc moi, la première chose que ça m'a inspiré, c'était plusieurs possibilités. En général, c'est quelque chose qu'on voit de façon arriver de façon assez naturelle. C'est déjà partir sur un monolithe qui est un peu plus modulaire, avec un monorepo. L'idée, c'est que chaque équipe va pouvoir avoir son petit module et le déployer chacun de son côté sans trop embêter l'autre équipe. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Alors je sais pas à quel point ça répond à ta problématique, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Ça vient aussi avec son lot de soucis, qui est que il n'y a pas de séparation de préoccupations, la separation of concerns. Donc il y a une équipe qui peut péter toute l'application. Après t'as les temps de compilation, de packaging, de déploiement qui vont être un peu plus longs et un peu plus problématiques, mais il y a des énormes boîtes qui fonctionnent sur ces modèles là pour lesquels ça fonctionne très bien. À quel point est-ce que ça aiderait, ou pourquoi est-ce que vous êtes pas parti là-dessus?
Ouais, c'est alors c'est l'approche classique et c'est d'ailleurs celle qu'on a. Le vrai problème, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple, j'essaie de réfléchir. On a par exemple, je vais dire une bêtise, mais on a une liste de to-do. C'est un truc tout bête, mais voilà, on a des utilisateurs, ils doivent faire certaines étapes sur l'application quand ils sont sur leur dashboard. Et un des problèmes, par exemple, c'est qu'on s'est retrouvé un sprint à nous implémenter des nouveaux to-dos et l'autre équipe implémenter aussi des nouvelles to-dos. Donc du coup, c'était pour après deux features séparées, mais on avait en fait ce point où ça se touchait. Et du coup, à ce niveau-là, même avec une approche de monétique modulaire, on est bloqué, puisqu'en fait, le code à un moment doit être ramené ensemble sur une seule branche qui va être déployée à la fin. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour ces trucs-là, on est obligé de le faire à la main, puisqu'on ne peut pas faire autrement sur un seul repo.
Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que du coup le problème c'est pas le process? Est-ce que en amont il n'y a pas moyen que les PO ou les engineering managers ou peu importe, moi si je mets ça dans mon contexte, je me dis ça va être le boulot des engineering managers de synchroniser avec les PM pour se dire ok, là il va y avoir un chevauchement un chevauchement technique en fait, mm-hmm. au niveau des épiques ou des user stories, on va essayer d'éviter de façon à ce que ce soit bien synchro et que tout se passe bien quoi.
C'est ça, et clairement nous n'avons pas d'engineering manager en ce moment à GetGrant, on a un directeur of engineering, mais il a déjà tellement à faire que ouais, mais clairement ce serait, c'est pour ça qu'on recrute actuellement un engineering manager si des gens sont intéressés. mais voilà, ouais, c'est typiquement le genre de choses où j'espérais d'un engineering manager qui soit clairvoyant et qu'il puisse voir ça venir et justement faire en sorte de décaler les sprints de manière à ce qu'on n'ait pas à travailler ensemble en même temps sur une même feature.
Mais quand même en fait, si ton monolithe il est vraiment modulaire et que chaque équipe a son module et son truc, normalement il devrait pas y avoir tant de code en commun que ça.
Non, c'est vrai. Mais un truc tout bête, parce que par exemple, on liste les... C'est purement technique, mais on liste, en fait, on a une énum au niveau des types de to-do qu'on reçoit. Mmh. Et donc forcément, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si on était au 10e, nous on avait pris le 11 et le 12, et il s'est avéré que l'autre équipe, comme ils faisaient en même temps, avait aussi pris l'énum 10, ben, 11 et 12. Donc c'est ce genre de truc tout bête, mais voilà, on est obligé de s'assurer. Après, en vrai, c'est un problème parce qu'on réalisait en même temps, mais dans le cas où, et c'est là que c'est assez drôle, si on réalisait pas en même temps, le problème ne se serait pas posé. Puisque ceux qui release en premier, évidemment, prennent les numéros et font un peu ce qu'ils veulent. Et ceux qui vont devoir release après vont être obligés de façon de rebase sur develop, qui aura été elle-même rebase de master. Donc, on n'aurait pas eu ce problème. Donc, c'est assez drôle d'ailleurs de se dire qu'il n'y aurait pas eu le problème si on ne faisait pas livraison en même temps.
Ouais, vous avez vraiment eu un problème de fork où vous êtes parti sur le même truc, chacun de votre côté, sans communication, comme des bourrins, quoi.
C'est ça. Les équipes sont relativement isolées, donc c'est vrai que...
Ouais. Non, très bien. Alors, du coup, toi, ça t'inspire quoi ?
Alors du coup, donc c'est l'approche qu'on va tenter d'avoir. Donc en fait, et aussi pour prendre un peu de hauteur, pour l'instant on travaille donc avec deux équipes Scrum, mais on a très envie d'aller sur Kanban. En fait, on voit beaucoup d'avantages et surtout au niveau du time to market, c'est indéniable que Kanban est beaucoup plus flexible que Scrum. Et c'est aussi l'idée d'avoir constamment en fait de challenger. Un des intérêts de Kanban est de pouvoir challenger littéralement au jour le jour ou tous les deux jours la priorité et de pouvoir être assez flexible. Alors que dans un sprint, on peut pas vraiment. Il y a des moyens, mais c'est pas le but d'un sprint. Justement, le but c'est d'essayer de caler le travail pour une période de temps donné, et ensuite au bout de cette période là qui est le sprint qui est échu, on peut du coup décider de la nouvelle priorité. Donc on aimerait avoir la possibilité de changer encore plus rapidement, parce qu'en fait, comme à nouveau j'ai expliqué, on va travailler avec les OKR. Si on voit tout de suite que par exemple un petit truc qu'on pousse, on a tout de suite un effet négatif qui est dedans, on aimerait pouvoir le retirer et changer ou l'évoluer. Et du coup c'est pour ça que Kanban est très intéressante dans cette approche, d'y aller vraiment atomiquement à la story et non plus de devoir de livrer tout le sprint. Et donc une des choses qu'on va essayer de mettre en place de manière à pouvoir passer de Scrum à Kanban progressivement, notre approche ça va être de tester, d'utiliser des feature flags. Donc petite publicité, on va utiliser Darkly Launch. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir donner accès donc aux ingénieurs et aussi aux PM. Donc pour les PM c'est simplement des petites features s'ils veulent tester de temps en temps, mais nous au niveau d'un point de vue technique, ce sera vraiment pour pouvoir dire voilà, on a tel endpoint qui est derrière une feature flag, on a telle feature qui est aussi derrière une feature flag, et en fait dès qu'on a les deux qui sont prêts, on peut simplement les release d'un coup, et l'idée en fait c'est d'avoir le code qui est ready en production live, mais pas accessible aux utilisateurs. Et donc du coup ça semble être une méthode qu'on a essayé de d'y réfléchir, on trouve pas trop de points négatifs. Le seul point négatif, enfin le seul vraiment qui va poser problème, et là ce sera du cas par cas, mais c'est vraiment le seul point qu'on a pu mettre en avant en disant ça va nous poser problème, ça va être au niveau des migrations de bases de données, puisqu'en fait s'il arrive un moment où on retire un champ existant et qu'on le remplace par un nouveau, et du coup nous derrière on a des migrations à faire et tout ça, donc migration de base de données, et après en plus devoir faire du coup de la migration de données pure, c'est-à-dire de passer un champ vers un autre et de faire cette migration-là, ça on voit pas comment c'est réalisable par feature flag. On a l'idée peut-être d'avoir un webhook sur la feature flag qui du coup trigger un cron, mais c'est très tendu et on préférait toujours avoir des ingénieurs qui le fassent, enfin qui supervisent ça, du moins pour les premières fois. Mais on pense aussi pouvoir se dépatouiller avec les migrations de DB en utilisant justement un système de webhook, de cron et tout ça. Donc même ça, il y a moyen que ça marche. Donc on est en train de regarder s'il y a moyen d'avoir un peu un système de comme les épiques, de dire par exemple voilà, il y a telle feature flag. Si vous en déclenchez une, automatiquement ça va déclencher les autres avec, ou plutôt dans le sens où si vous déclenchez cette épique, alors ça va release la feature sur le front-end, ça va débloquer l'endpoint sur le back-end et ça va run la migration directement sur base donnée. Donc c'est l'approche qu'on a pour essayer de découpler justement le boulot, d'avoir ce système de feature flag où en fait en débloquant une, ça va débloquer du coup pour l'utilisateur le code qui sera déjà en production.
Ouais, c'est intéressant. Alors pour d'autres problèmes de migration de base de données, moi le premier truc que je me dis, c'est qu'il faut quand même éviter de faire d'avoir à faire des migrations qui cassent, quoi. Finalement,
ah, évidemment,
si t'arrives à garder la compatibilité, t'es bon, quoi.
C'est vraiment des edge cases sur des trucs qu'on devrait vraiment supprimer.
De toute façon, c'est pas une silver bullet, quoi. Tu peux pas tout feature flag. C'est ce que mes développeurs mobiles me disent tout le temps. Non, mais du coup, moi j'avais jamais trop bossé avec les feature flags. J'en avais vu des talks en conférence, etc. dessus. Surtout des entreprises qui essaient de vendre la soupe sur leur solution. Mais c'est. Ça avait l'air assez intéressant. Du coup, maintenant, nous, on en utilise aussi au travail. Comme je disais, en fait, on a une de nos problématiques qui nous empêche de pousser régulièrement, c'est que on a cette application mobile. Donc, en fait, maintenant, on a tendance à parfois finalement se dire, allez, tu sais quoi, on garde le même cycle, on garde la même cadence, on sort quand même sur mobile, même si c'est pas prêt, par exemple, sur le back-end, mais on le met derrière feature flag.
C'est ça.
Et en fait, ça permet quand même de faire des lancements, même de features qui sont beaucoup plus smooth, parce qu'on peut vraiment, jusqu'au dernier moment, bien synchroniser avec le légal, que les terms and conditions soient mis à jour, que avec le marketing, que, ok, hop, la minute où on pousse le tweet, paf, on peut trigger le flag. Donc, ça a beaucoup d'aspects qui sont assez intéressants, parce que même si tu as des systèmes CI/CD qui sont hyper performants et tout, ce sera pas aussi aussi rapide que de tourner un bouton sur vrai ou faux, quoi. Donc non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi j'ai un peu peur que ça pollue un petit peu le code, parce que du coup tu te retrouves avec des boulets un peu partout.
Ouais.
Ma foi, est-ce que c'est pas un mal pour un bien quand c'est bien fait? Après, de toute façon, il n'y a pas de 50 solutions, qu'au bout d'un moment, il faut que tu arrives quelque part, quoi.
C'est
donc, c'est pas magique. C'est le truc qui m'a fait un petit peu peur, mais d'un point de vue technique, moi, j'ai jamais codé personnellement avec des feature flags, donc ça m'intéresserait de voir si en vrai ça pollue autant que ça ou pas. Mais non, c'est une super idée. Du coup, pour continuer à dérouler, moi, pour aller l'étape après, il y a évidemment les microservices, qui, voilà, quand tu commences à scale vraiment, à avoir un certain nombre d'équipes, si tu veux vraiment avoir la separation of concerns et vraiment avoir des équipes qui sont totalement séparées, qui sont totalement autonomes d'un point de vue technique, et au niveau de la base de données, au niveau d'à peu près tout, c'est la façon de faire. Après, ça vient avec toutes les problématiques qu'on connaît et qu'on commence à voir depuis que la hype des microservices est un petit peu terminée et que tout le monde est revenu un petit peu à la raison. Ça n'engage que moi, mais ouais, enfin c'est sûr qu'on peut livrer, chaque équipe peut livrer totalement indépendamment. Ça, il y a une separation of concerns qui est super bien, mais voilà, on se retrouve très vite à devoir publier des librairies pour le code en commun. commun. Quand tu es sur un monolithe modulaire, tu suffit juste d'avoir un coin, comme tu disais tout à l'heure, avec les énumes. Un coin qui est partagé, hop, voilà, c'est pas compliqué, c'est juste de mettre du code dedans. Alors que là, quand tu dois modifier ta librairie, la publier, demander à des gens de faire une pull request dessus, la pousse, la publier, que tous les caches soient bien mis à jour, que tout le monde puisse, doive l'attirer. Et bien penser à mettre à jour leur bout de code, etc. C'est un peu une vraie galère. Et puis bah, après, pour loguer, pour faire du tracing, du monitoring, ça rajoute une grosse, grosse quantité de galère quand même. Donc, ouais, clairement, c'est pas pour tout le monde, mais passer une certaine taille, ça vaut le coup, quoi.
C'est vrai que, enfin, juste pour rebondir un petit peu, c'est vrai que du coup au boulot on a l'approche, on a du coup un monolithique plutôt modulaire, mais on a aussi du coup des microservices. Et je trouve justement que d'avoir les deux, c'est assez bien, parce que justement ils n'ont pas ce problème de devoir faire des librairies pour le code commun, puisqu'en fait dans ces cas-là, tout ce qui est commun va sur le monolithique, donc ça règle un petit peu leur problème. Mais à ma connaissance, on a deux services principalement, le DMS, donc le Document Management System, et du coup évidemment tout ce qui a trait aux wallets et à l'intégration des third parties pour les wallets de nos utilisateurs. Et je trouve que le mix des deux marche relativement bien pour l'instant.
Nice. Moi, à ma connaissance, avant que j'arrive, ils étaient partis sur des microservices plus ou moins dès la première itération, en se disant ça va être énorme, donc on va partir là-dessus direct. Et c'est la classe, parce qu'effectivement il y en a eu besoin, mais moi j'ai bossé dans pas mal de startups où on a commencé avec un MVP, avec Kubernetes et tout, et j'ai jamais eu besoin. Mais bon, ça m'a permis de rencontrer des vrais problèmes de vraies boîtes dans des petites boîtes, ce qui est assez intéressant d'un certain point de vue. Et une vraie perte de temps d'un autre point de vue. Cool. Passerions-nous aux problématiques actuelles, du coup, qui est toujours à peu près la même au final pour toi. Est-ce que tu voulais élaborer encore ?
C'est ça. Non. Donc c'est vraiment juste pour restituer encore. Donc vraiment la problématique actuelle. Mais c'est un peu pour faire un état des lieux maintenant et du coup pour y revenir dans quelques semaines. Quelques mois quand même, on va laisser un peu de temps au temps. Mais donc juste pour dire, aujourd'hui, la problématique actuelle qu'on a, c'est donc deux équipes qui travaillent sur les deux mêmes produits et de manière très proche. Comme de fait, donc ça peut être même littéralement le cas que sur un même sprint, les deux équipes doivent toucher littéralement le même code. Donc dans ces cas-là, c'est le plus complexe. Et donc, voilà, la problématique actuelle est donc... J'ai fait un petit peu un spoiler alerte juste avant, mais donc voilà, donc on part sur les feature flag pour essayer de diminuer un petit peu le coupling qu'il y a entre les deux équipes au niveau de ce qu'on livre. Et donc voilà, c'est juste pour faire un état, mais on reviendra dessus, je pense, d'ici quelques mois. J'aurai des petits retours sympas à faire.
Ouais, il pressait d'avoir le retour.
C'est ça. Mais donc, c'est vraiment l'approche qu'on prend et on en avait plusieurs, mais c'est vraiment celle pour l'instant qui semble la plus facile à mettre en place d'un point de vue technique et qui, du coup, comme de fait, ça a deux avantages. Donc, à la fois pour le business, on devrait pouvoir techniquement livrer plus tôt si ça se passe bien. Donc, on verra peut-être avant même de. Donc, pour l'instant, on est toujours sur Scrum. On verra peut-être pour gagner des sprints de deux semaines, mais avec du coup une release tous les mercredis, une potentielle release, ce qui veut dire qu'on ne sera pas obligé de release, mais s'il y a des stories déjà prêtes et bien feature flaguées, on les passera sur la release, on va dire, de mid-sprint. Et du coup, l'étape d'après sera du coup de pouvoir laisser tomber Scrum au profit de Kanban. Donc voilà, à nouveau, stay tuned. On vous en dira plus. Je vous en dirai plus quand ce sera effectif, après quelques semaines.
Exciting. Mais tout le monde, donc, tous les gens qui font du Scrum repassent sur Kanban, c'est fou.
Bah c'est à croire que c'est l'essence même de Scrum. L'essence même de l'agilité.
Mmh. Alors du coup, en parlant de Kanban, moi à Swissborg, on était à l'aube de passer de Kanban à ShapeUp. Ce qui était ma foi intéressant comme projet. Et ça m'a permis, nous a permis de se poser un certain nombre de questions sur nos process déjà, juste essayer de de se dire, ok, quelle est la limite des process qu'on a en place aujourd'hui, qu'est-ce qui peut et ne peut pas être résolu avec Kanban ou avec plus de process. Et après, c'était assez intéressant. Et donc, ça nous a amené il y a quelques mois à se demander est-ce que ShapeUp n'était pas une solution. En tout cas, pour nous, ça avait l'air de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre autrement. Donc, on s'est dit, à la limite, on part là-dessus et puis on verra après comment ça se tient. On expérimente, on est agile. alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui sont dans l'ignorance comme je l'étais il y a quelques mois, pour être tout à fait honnête, je vais vous refaire un petit point sur ShapeUp. Ça permettra de juste parler d'agilité. Il n'y a pas que Kanban et Scrum dans la vie. Donc ShapeUp, c'est une méthode qui a été développée par Basecamp, qu'ils ont développée en interne. Et ensuite qu'ils ont essayé d'évangéliser un petit peu parce qu'ils vendent un produit qui permet d'utiliser ShapeUp, je suppose. Donc en fait, mis très simplement, c'est une sorte de Scrum en 8 semaines et sans équipe. Globalement, c'est ça. Donc en fait, ça fonctionne en cycle de 8 semaines. Qui sont en général 6 semaines de sprint plus 2 semaines de cooldown, un peu comme on ferait des hack week, même si voilà, le cooldown c'est pas quelque chose qui est vraiment très très, j'ai pas l'impression que ce soit très très bien défini, mais en général c'est voilà, les gens qui vont, ils vont fixer des bugs, ils vont faire du refactoring, voilà, ils vont se calmer un petit peu. Donc en fait, ça, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne en deux tracks, avec deux tracks en parallèle. Alors on pourrait arguer du fait que Scrum ça fonctionne un peu comme ça, c'est juste que c'est pas exactement défini comme ça, mais ça fonctionne un peu comme ça. Le PO il se tourne pas les pouces pendant le sprint. Mais en gros, il y a deux tracks en parallèle, il y a une track produit, une track ingénierie. Une track produit qui prépare les prochains items pendant le sprint, donc pendant les premières 6 semaines, la track produit va shape up les items, donc ils vont vraiment se poser les questions de voilà, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les problèmes qu'on va potentiellement rencontrer, en gros essayer de voilà, faire cette espèce de refinement, demander du conseil technique, etc. En gros, arriver à avoir un pitch qui est assez cohérent et qui n'ait pas trop de mauvaises surprises en chemin pour la suite. Et pendant les deux dernières semaines des 8 semaines, vont sélectionner avec toute une sorte de comité, ils vont sélectionner les items à mettre dans le prochain cycle. Donc en fait, ils font une sorte de sprint planning, mais sans l'équipe, quoi. De l'autre côté, la track ingénierie, bah, pendant les 6 premières semaines, ils font le cycle. À la fin, ils déploient. Et pendant les 2 semaines d'après, ils font leur cooldown et ils font ce qui leur chante. Ils se calment un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes sont composées en fonction des items qu'il va y avoir dans chaque cycle. Donc en fait, on va essayer de viser des équipes de 3 à 4 personnes. Donc vraiment plutôt des petites équipes autonomes et les mettre, les organiser en fonction des items. Donc peut-être que certaines personnes vont connaître un peu plus à propos de tel ou tel sujet. C'est assez intéressant. Moi, c'est ce qui me plaisait dans ShapeUp, c'est que notamment nous, on a des équipes qui grossissent un peu dans tous les sens. Et il y a certaines équipes qu'on aimerait bien mettre ensemble, mais ben, ensemble elles sont trop grosses, en temps séparé ça n'a pas trop de sens. Donc avoir une sorte de pool de développeurs comme ça, dans lesquels on pourrait venir piocher et créer des espèces de sous-équipes temporaires au fur et à mesure des besoins, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Il n'y a pas d'estimation en ShapeUp. Alors il y a un peu d'estimation, il y a ce qu'on appelle l'appétit, en fait, qui peut être soit grand soit petit, et c'est quelque chose qui est décidé quand l'item est shape. Donc en fait, quand on décide qu'un item a un grand appétit, c'est qu'il va prendre les 6 semaines de développement. Quand il a un petit appétit, c'est globalement 2-3 semaines. Et donc l'idée, c'est chaque équipe qu'on va créer, on va soit leur donner un un grand appétit, un item avec un grand appétit, soit deux, trois items avec un petit appétit. Et en essayant peut-être, éventuellement, que c'est à peu près du sens, quoi. Et donc voilà, c'est, globalement, c'est shape-up, je peux présumer comme ça. Donc c'est, ça a l'air d'être un peu le fouillis, et c'est vrai qu'à posteriori, je me dis que c'est juste du, c'est un peu du Scrum, un peu mis différemment, avec des cycles 4 fois plus longs, quoi. Donc je comprends que déjà Scrum, c'est pas forcément toujours facile à vendre, parce que, ah bah, mais qu'est-ce qui se passe si les requirements ils changent pendant le cycle.
C'est la première question.
Là, pour le vendre sur 8 semaines, je pense qu'il faut quand même être dans une boîte où les choses sont assez carrées,
bien établies,
ouais, exactement. C'est un peu ce dont on s'est rendu compte. Et nous, on était hyper chaud pour tenter le coup. C'est juste que un petit peu quelques semaines avant de vraiment mettre ça en place, on s'est dit bon, en fait, ça va pas être possible. On en est encore à l'étape de, ouais, on dit toujours start-up, scale-up ou quoi que ce soit, on commence à être établi et tout, mais bon, ça, on a encore, ça bouge encore beaucoup et très vite, donc on a besoin d'être réactif. On s'est rendu compte que 8 semaines, ça allait peut-être être un petit peu chaud, et il y a beaucoup de gens que ça commençait à faire flipper, donc on s'est dit en fait ça vaut pas le coup de juste passer le cap et faire flipper tout le monde juste pour faire une expérimentation, quoi. Mais on s'est dit ok, on a pris un step back et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on essayait vraiment de résoudre à la base avec ça, quoi. Et en fait on avait deux grosses problématiques. C'était d'une part le problème d'équipe dont je parlais tout à l'heure, et le deuxième c'est l'équipe produit qui est encore assez petite, en fait, qui a un petit peu du mal à suivre le grossissement de l'équipe d'ingénierie. Et donc on avait besoin d'éclaircir un petit peu quelles étaient les priorités côté produit, en gros améliorer quelque part la qualité et la quantité de ce qu'on avait nous en input à niveau ingénierie, quoi. Alors on a pas mal travaillé sur des process, etc., mais en fait le fait d'expliquer shape up et le système de betting table et de shaping, etc., ça a quand même le fait de dire on va mettre ça en place, ça a mis un petit coup de fouet à tout le monde, et notamment à l'équipe produit qui s'est dit ok, maintenant il va falloir qu'on soit prêt pour faire ça, quoi. Donc ils ont mis un certain nombre de process en place, ils ont créé leur petit framework qui leur permettait de prioriser, de shaper les items à venir. Et c'est hyper cool parce qu'en fait ça c'est un truc qu'on peut complètement garder, on n'est pas obligé de mettre en place ShapeUp pour le garder, c'est totalement compatible avec Kanban finalement, c'est juste que maintenant ça va partir en flux plutôt qu'en itération, mais ça c'est super cool. Donc rien que le fait d'avoir fait ça finalement, ça nous a permis de gagner en qualité, et globalement je considère qu'à peu près 50% de la qualité d'une feature c'est la qualité de sa spec, quoi. S'il y a des trous dans la spec ou qu'elle change, ou enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans l'ingénierie, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer au niveau produit. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a réussi à améliorer et qu'on va conserver après finalement en restant sur du Kanban, mais en gardant cette inspiration un peu shape-up. La seconde, c'est que mes deux grosses équipes principales, c'est celles qui travaillent sur l'application mobile, elles vont être finalement fusionnées, et on va justement s'inspirer de cette technique-là de shape-up, de créer des équipes un peu temporaires en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on va faire des équipes qui vont être sûrement autour des épiques qui arrivent. Donc dès qu'il y a une nouvelle épique qui rentre dans le Kanban, ça va être notre boulot d'engineering manager, comme je disais, de synchroniser les équipes pour qu'on sache que telle feature elle va demander à peu près telle ou telle personne et tout, de façon à ce que les choses se mettent pas trop mal. On va voir à quel point c'est faisable d'être smooth comme ça, mais ça va être notre boulot de synchroniser tout ça, de faire un peu les chefs d'orchestre. On a commencé aussi à faire sauter les rétros, en fait, parce qu'on avait des rétros, mais les rétros en Kanban c'est un peu compliqué parce que tu te retrouves à débriefer pas vraiment un sprint, donc c'est un peu toujours, tu finis toujours par parler des trucs high level, mais finalement jamais des trucs low level, tu parles jamais de comment ça s'est passé tel épique, bah là on a merdé parce que la spec elle était pas bonne, machin, ou que sais-je. Donc on a commencé à faire sauter les rétros, mais par contre à faire des débriefs niveau épique. C'est-à-dire que quand une épique est sortie, qu'elle est en prod, tout le monde applaudit et ensuite on débrief toute la petite équipe qui a travaillé sur cette épique. Et on se pose des questions, comment ça s'est passé, quel était le résultat attendu, quel est le résultat actuel, et ensuite surtout on communique avec le reste de l'équipe sur qu'est-ce qu'on a appris de cette épique et quels sont les pièges dans lesquels on est tombé, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille pas en ce moment, j'ai beaucoup d'espoir. Les débriefs, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment, le fait de vraiment faire quelque chose, de suivre le flux, quoi. Finalement ça, c'est vraiment aller, enfin, tu vas faire des rétros toutes les deux semaines quand tu fais du Kanban, finalement ça a pas vraiment de sens, quoi. Donc on va partir là-dessus, et puis ouais, on va en vrai avoir des espèces de sous-équipes, une espèce de squad, ou je sais pas comment on va les appeler, qui sont toujours autonomes par équipe. Donc s'ils veulent faire des stand-up, bah ils font des stand-up, s'ils veulent pas parce que c'est une équipe de 3 et qu'il n'y en a pas besoin, ils en font pas. Mm-hmm. Et finalement il y a le dernier truc, c'est les epic leaders. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais on a des leaders d'epic. Donc chaque équipe, chaque epic a son leader, et quelqu'un peut être epic leader de plusieurs epics s'ils veulent, ou de zéro. C'est pas obligatoire ni interdit, mais du coup l'idée c'est d'avoir une commande décentralisée, c'est-à-dire que rien nous empêche de régulièrement, tu vois, genre une ou deux fois par semaine, d'avoir une sorte de stand-up avec les epic leaders les PM et les engineering managers, de façon à nous avoir une idée, une compréhension globale de l'avancement de chaque truc, sans forcément avoir besoin d'avoir toute l'équipe ingénierie ou toutes les personnes qui travaillent au même endroit. Donc on finit par faire un peu des stand-up de stand-up, quoi, finalement. Mais
ça ressemble beaucoup à l'idée du capitaine qu'on avait à GetGround, à Arthos.
Ouais, c'est exactement ça.
D'accord. Non, ça marchait vraiment bien, ça.
C'est exactement ça. On a un capitaine qui du coup s'occupe du brief, de la communication up and down, ouais. Et qui s'occupe du débrief à la fin. Mm-hmm. Et ça permet, en fait, je trouve, d'un point de vue gestion humaine, ça permet de coacher les gens plus facilement aussi. Tu vois, avoir ceux qui vont être des leaders, soit naturels, soit qui volent. Qui ont une volonté de devenir leader et d'avancer, ça permet aux gens d'avoir un espace dans lequel ils peuvent venir expérimenter. Ça permet aussi, je trouve, de remplacer un peu le système de cooldown qu'il y a dans ShapeUp, où on sous-entend un peu que les gens ils vont courir comme des malades pendant 6 semaines et qu'ensuite ils vont se reposer pendant 2 semaines, ce que je trouve pas très agile. Là, avec les epic leaders, comme la charge de travail est toujours un peu plus élevée quand t'es epic leader, ça permet en fait à chaque personne de trouver son rythme, en fait, et d'être epic leader sur un gros truc qui va t'occuper pendant 2 mois, et ensuite de dire ok, cool, je prends le backseat, maintenant je suis tac tac tac, je me repose un petit peu mais je produis quand même, et ensuite, ouais, dès que je le ressens, de remonter au créneau. Donc ça donne beaucoup de flexibilité, en fait, à la fois pour les niveaux des process et au niveau des gens. Donc il y a moyen de faire des trucs assez intéressants avec tout ça, et puis ça permet aussi un meilleur partage de connaissances, parce que finalement c'est toujours un peu les mêmes personnes qui travaillent avec les mêmes personnes sur le même sujet, mais ça ouvre quand même la porte à un peu plus de mélange des genres qui sera sûrement pour le mieux. Donc voilà, en conclusion, on a dû être agile par rapport à notre pratique de l'agilité, par rapport à nos méthodes. Donc c'était une période un peu méta, finalement, de remise en question au début, au milieu et à la fin, quand on s'est demandé ce qu'il fallait qu'on fasse pour résoudre les problèmes, ensuite comment on implique ShapeUp, et ensuite finalement comment est-ce qu'on fait pour ne pas appliquer ShapeUp mais quand même résoudre les problématiques au début. Donc c'est toujours la méthode que j'applique beaucoup, c'est-à-dire essayer de comprendre une méthode, en extraire les principes, ensuite l'introduire à ta méthode personnelle, ce qui est quelque chose que j'utilise, par exemple, pour méthode d'organisation personnelle que tu connais bien, avec mon système de Kanban, GTD, Bullet Journal, Frankenstein.
Et tutti quanti. Ouais.
Et tutti quanti. Donc voilà, donc moi aussi je vous tiendrai au courant de l'avancement de la mise en place du nom ShapeUp. j'ai beaucoup d'espoir et j'espère surtout que ça va nous permettre d'avoir tout éclat pour pouvoir continuer à scaler comme des malades.
C'est intéressant, je rebondis surtout sur la partie du coup, parce que c'est un peu l'idée donc, de 8 semaines et en 6-2, donc du coup 6 semaines de sprint et 2 semaines de cooldown. C'est assez intéressant parce que justement, donc, on a pris la décision il y a maintenant 3 sprints. En fait, donc on a 10 jours de sprint, donc du coup on fait du mercredi au second mercredi, donc 2 semaines après. Et du coup, en fait, ce qu'on a décidé, parce qu'on avait deux problématiques qui venaient ensemble. La première, c'était qu'en fait, on n'arrivait pas à gérer la tech dep dans nos sprints, ni en dehors des sprints. Et la deuxième, en fait, c'est que du coup, comme on livrait le mercredi, on avait toujours cet accord tacite de dire on finissait le boulot le vendredi, donc le vendredi deux, enfin trois jours du coup avant la livraison en prod, de manière à ce que les QA, donc c'était vendredi, on cut, on pousse du coup ce qui est en staging sur preview, et du coup ça laisse deux jours complets, donc lundi, mardi au QA pour pouvoir faire du test intensif dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, donc on a mis ça en place, et donc du coup on a été encore plus loin en se disant bah, si le lundi, mardi c'est déjà utilisé pour les QA pour pouvoir en fait du coup donc QA l'environnement de preview, bah, du coup on a décidé en fait d'estampiller ces deux jours comme étant les jours de tech dep. C'est-à-dire qu'on a nos daily scrum où c'est extrêmement rapide puisque normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Donc les seuls trucs qui vont être, c'est des defects qui vont revenir de preview par les QA. Donc évidemment, on doit sauter dessus pour pouvoir les résoudre avant la mise en prod. Mais du coup, on s'est rendu compte que c'était assez intéressant parce que du coup, les QA étaient tranquilles pour faire leur queuing. Et nous, ça nous laissait vraiment deux jours où du coup, le focus était donné aux techniques et pas au business. Et donc, ça fait maintenant 2-3 sprints qu'on l'a. Ça n'a pas été les meilleurs sprints pour tester puisqu'on a eu. Des gens qui partaient en vacances avec l'été, tout ça, donc forcément on a dû compenser pour l'autre équipe et vice versa. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher vachement bien, puisque du coup, on n'a pas besoin du tout de prendre en considération la tech dep dans les sprints, et parce qu'on sait qu'on a du coup 20% du sprint qui est réservé à la tech dep. Donc c'est une approche assez intéressante, et pour l'instant, ça a l'air de marcher plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a la tech dep, on a vraiment plus le mental space pour vraiment être focus sur la tech dep, et non pas voilà, en faire une heure par-ci, deux heures par-là, on a vraiment deux journées complètes de dédiées. Et pour l'instant, je trouve que ça marche relativement bien. Donc,
ouais, c'est pas mal, ouais. J'aurais jamais trop osé modifier Scrum à ce point-là, mais c'est, en fait ça a beaucoup de sens ce que tu dis.
Au final, en fait, c'est vraiment l'idée du cooldown, c'est-à-dire que pendant deux jours, les devs, on se retire activement de travailler sur le sprint, mais pour autant, c'est pour ça en fait, je trouve qu'on n'a pas fait une grosse entorse à Scrum, dans le sens où en fait, on ne dit pas que le sprint est terminé pour nous, on dit juste qu'on ne travaille plus activement sur les stories, et comme de fait, de toute façon, les stories ont été faites avant le vendredi, et s'il en reste d'ailleurs, on les fait quand même sur ces jours-là, c'est l'accord, c'est-à-dire on ne travaille sur la tech dev que quand le sprint et le sprint goal a été accompli. Donc du coup, on ne met pas en danger en fait les principes de Scrum qu'on utilise. Et pour autant, en fait, on se libère du temps, qui est à la fois bénéfique pour les QA, évidemment pour nous, parce que du coup, comme on a pas mal cravaché pendant les deux années passées sur le MVP et vraiment mettre en place la startup, on a accumulé une bonne tech dep que maintenant, du coup, on doit allouer du temps pour pouvoir la faire diminuer. Donc.
Ouais, ça a du sens. Est-ce que finalement, c'était pas ça l'essence de Scrum aussi, quoi ? Est-ce que finalement, c'est pas l'inverse de ce que je disais ?
C'est
et
ça.
Que dit Scrum quand... Qu'est-ce que tu es censé faire quand tu as fini ? Voilà, tu continues, tu regardes ton sprint goal et tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'imagine que c'est ça la différence.
C'est ça.
Non, ça a beaucoup de sens, mais comme tu disais, le fait d'avoir le mental space, me tenir, ok, je me focalise là-dessus et c'est legit et c'est prévu et ça va faire du bien à tout le monde.
C'est voilà, ça, c'est un ça, peu ça a beaucoup de sens. Space pour les ingénieurs, lundi, mardi.
Nice. Est-ce qu'on bougerait pas vers les outils de l'épisode ?
Bien sûr. Alors, je vais commencer avec le mien. Donc, j'avais déjà parlé de Miroboard je crois que c'était pas la dernière fois, c'était la fois encore avant. Du coup, je vais amener un autre outil parce que donc, c'est relativement nouveau. C'est Figma, donc, alors que je pense beaucoup de gens connaissent, surtout les front-enders. Coucou à vous. Donc, du coup, Figma a mis en place un nouveau produit qui s'appelle FigJam. Et en fait, c'est un copier-coller de Miro, c'est un collaborative board que je trouve extrêmement bien fait. C'est-à-dire que Miro, je trouvais que l'interface était hyper intuitive. FigJam, c'est le niveau encore au-dessus. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse faire une interface plus simple pour faire collaborer des gens sur un board en ligne. Donc, chapeau à Figma, ils ont vraiment fait un bon boulot. Bon, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait vu qu'ils faisaient déjà du prototyping, mais le fait de faire le whiteboard est très bien fait et il y a vraiment rien en trop et il manque rien non plus. C'est-à-dire, voilà, un truc tout bête, le timer pour faire des activités, il est là et de base. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont présentes et qui sont extrêmement utiles. Donc voilà, je recommande fortement. Et honnêtement, pour le coup, en plus, c'est assez facile puisque je pense que je peux avancer sans trop mouiller que 50% des équipes doivent utiliser Figma et FigJam est intégré dedans, c'est-à-dire simplement un produit en plus, mais ça rentre, il y a pas à le payer en plus, à la différence de Miro qui est un service qui est complètement à part et pour le coup il y a peu de chances que des gens utilisent Miro si ce n'est uniquement pour le whiteboard. Donc du coup un petit conseil pour ceux qui utilisent Miro, n'hésitez pas à révoquer votre licence et à du coup passer sur FigJam si vous avez déjà une licence Figma. Voilà.
Très bon ça. La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que les gens qui n'ont pas un compte peuvent accéder à un dashboard FigJam?
Alors c'est une bonne question, j'ai regardé, donc du coup j'ai pas pu voir puisque moi tous mes comptes sont en pro, enfin j'ai pas le free tier, mais à ma connaissance oui, et ça tombe à nouveau dans les mêmes principes que pour Figma, c'est-à-dire ces possibilités d'avoir un projet privé, mais à nouveau donc du coup ce sera qu'un seul et uniquement avec 3 collaborateurs maximum. Je vais pas mouiller en disant que ça marche, mais je pense que FigJam fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire ça limiterait la session aux 3 personnes qui sont sur ce repo privé.
Voilà. Parce que il y a beaucoup de dashboards collaboratifs qui parfois sont très bien et notamment qui sont spécialisés pour les rétros. Moi, c'est mon utilisation principale. Mm-hmm. Le problème, c'est que quand t'es obligé de créer un compte, quand tu dois vendre à ton équipe que tout le monde doit se créer un compte sur ce truc-là qu'ils vont utiliser qu'une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, et ben c'est un peu lourd, quoi. Même si c'est un compte gratuit et tout. Et ce que j'aime beaucoup avec Miro, notamment, c'est que tu peux juste dire voilà, il faut juste y accéder avec ce mot de passe. Le mot de passe, il est partagé dans notre One Password commun de l'entreprise. Et comme ça, ceux qui ont besoin d'un compte Miro pour créer des dashboards, etc., ils en ont un. Et ceux qui sont là juste pour la rétro, ils peuvent venir en tant qu'invités. Et c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de projets que j'ai pas pu utiliser juste pour cette raison, quoi.
Mais non, c'est clairement ça. Alors à nouveau, et c'est important, FigJam est toujours en bêta, voilà, c'est faut le dire. Donc voilà, c'est on disclose à 100%. Donc, et je viens de vérifier aussi, donc du coup sur le free tier, en effet, FigJam fonctionne parfaitement.
Very nice. Bah écoute, je vais investiguer demain et puis peut-être que je l'utiliserai pour ma rétro de vendredi, qui sait.
Voilà. Tu m'en diras des nouvelles.
Yes. Alors de mon côté, je voulais parler de MindNode. Je comprends pas que j'en ai pas encore parlé. C'est mon.
Je suis étonné aussi.
C'est mon logiciel de l'enfer en ce moment. En vrai, c'est un logiciel de mind mapping, hein, de carte mentale. Que j'utilise depuis très longtemps en fait, hein, quasiment depuis que je suis sous Mac. C'est sur iOS, macOS, ça marche très bien avec l'iPad aussi. Je pense que c'est que sous Mac en revanche, enfin que sur l'écosystème Apple. C'est pas totalement lié à l'agilité, mais c'est très utile et c'est très agile dans son utilisation en tout cas. Donc c'est un logiciel de mind mapping comme vous en connaissez sûrement plein d'autres, mais ce qui est fou, alors comme je disais, je l'ai utilisé pendant longtemps, j'ai jamais trop compris l'intérêt du mind mapping. Enfin, je comprends bien, tu peux dumper ton cerveau comme ça, tu fais des branches et tout, c'est très bien, c'est très joli pour partager l'information et tout, c'est super bien, mais je l'ai jamais eu vraiment le réflexe de l'utiliser, à part à certains moments sur certaines problématiques très très particulière où ça va vraiment dans tous les sens, où il faut vraiment diverger dans tous les sens et où je me suis dit ok, j'ai besoin d'une mind map, mais bref, mais il y a une fonctionnalité qui a tout changé que j'ai découvert sur la chaîne Nowtech TV, il me semble, de Jérôme Kainborg, qui parlait de ses applications qu'il utilise le plus, et il parlait de MindNode, et moi je me suis dit MindNode, et il parle de la fonctionnalité. Ouais, il y a une fonctionnalité, il y a un bouton, ça permet de passer d'un arbre à une liste à puces indentée. C'est-à-dire que tu as créé ta mind map et tout, machin, avec tes 4 branches, et en fait, boum, tu cliques sur ce bouton et ça va te faire la même représentation, mais comme une liste à puces indentée avec chaque arbre qui est un niveau 1, et ensuite tous les sous-arbres qui sont au niveau 2, etc. Donc ça permet de complètement linéariser l'arbre, et ça a tout changé, quoi. Ça a vraiment tout changé pour moi. Je l'utilise maintenant pour absolument tout, peut-être pas absolument tout, bah pas loin, franchement. Et c'est incroyable, quoi, parce que ça permet vraiment de diverger complètement. Donc c'est hyper facile d'ajouter un élément à n'importe quel endroit de ta réflexion, en fait. Tu peux diverger sans te poser de questions, tu y vas, tu balances tout ce que tu as dans ton cerveau. Et une fois que tu as fini, que tu as l'impression que tu es allé au bout de ta réflexion, tu cliques sur un bouton et paf. Et là, tu peux converger, tu linéarises et ensuite tu n'as plus qu'à suivre ton plan. Donc, par exemple, pour écrire une présentation, moi j'utilise que ça maintenant, quoi. Tu diverges pour définir ton contenu, tu mets tout le contenu de ta présentation, t'as pas besoin que ce soit dans l'ordre ou quoi, tu balances tout sur ta mind map, et ensuite, boum, tu cliques, tu converges, et ensuite t'as plus qu'à rédiger les slides, elles sont déjà dans l'ordre, tout nickel, t'as tout le contenu et tout, t'as juste à mettre un écran, ta liste, de l'autre côté t'as ton PowerPoint ou Keynote ou peu importe, et c'est parti quoi, et ça change la vie quoi, et j'utilise en ce moment pour écrire mon livre sur l'agilité dont j'aurai sûrement beaucoup d'occasions de parler une fois qu'il sera à peu près prêt. J'ai créé une soixantaine d'arbres sur MindNode qui sont reliés entre eux, etc. J'ai divergé comme un malade pour faire mon plan détaillé. Et ensuite, maintenant, je suis en train de converger sur l'écriture du bouquin. Et en fait, c'est cool, j'ai plus qu'à suivre les points et juste transformer en texte, quoi. Et c'est d'une efficacité redoutable. Donc, je sais pas si c'est tout à fait dans l'agilité, mais ça me sert beaucoup dans mon métier, donc ça ne peut pas vous faire de mal.
Non, et puis même, je pense, je l'avais déjà utilisé pour même des problèmes techniques, par exemple, un truc tout bête, mais juste même penser à une solution technique. Quand tu dois commencer à penser, par exemple, à qu'est-ce qu'on va avoir comme problème, ou quelles vont être les limitations, quels vont être les bénéfices, tout ça, avoir une mind map, c'est vraiment, tu peux pas passer à côté, sinon c'est très, très, très difficile d'articuler, c'est le cas de le dire, la pensée, et surtout, en fait, d'avoir vraiment c'est vraiment la représentation en arbre que j'aime bien, moi, dans MindNode, c'est vraiment le fait de pouvoir en fait visualiser facilement. Et par exemple, si tu as un problème donné et que tu fais deux arbres tout bêtes qui est bénéfice et des avantages, c'est très facile de voir quand les arbres sont faits, est-ce que j'ai plus de bénéfices ou de désavantages, et ensuite de pouvoir vraiment aller pousser la granularité de la réflexion au niveau où on a besoin. Et c'est ça en fait que je trouve hyper intéressant, et surtout c'est hyper facile à visualiser.
Ouais, c'est un très bon outil de communication aussi, je trouve, parce que notamment quand je fais une présentation, à la fin de la présentation, donner le PDF avec toutes les slides et les commentaires et tout aux gens, c'est bien, mais ça va, s'ils veulent chercher un truc en particulier ou s'ils veulent se remémorer la présentation juste avec le PDF, ça va leur prendre 10 minutes pour tout. Enfin, ils vont juste scroller, ils vont rien lire, et au final, à moins qu'ils cherchent quelque chose de très précis, c'est pas hyper pratique, quoi. Alors que si toi tu pars d'une mind map, qu'ensuite tu t'en sers pour écrire tes slides, et que à la fin de tes slides t'inclus la dite mind map, en fait, si t'as qu'une seule chose à partager, c'est la mind map, quoi. Parce que là, les gens, ils ont un résumé complet, mais à la fois concis de la présentation, quoi. Et peut-être tu peux supprimer quelques trucs pour condenser un peu plus, mais ensuite tu rajoutes quelques stickers, quelques images, un peu de couleur, et je trouve que ça fait bien le taf pour partager des idées et des réflexions, des brainstorming. Donc abusez-en, moi, ça a changé ma vie. Cool. Eh bien, molto bene. On va conclure cette émission. On espère qu'elle vous aura plu, cette émission de rentrée. Avant de finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton site qui est toujours pas en ligne ?
Toujours pas, non, il y a beaucoup plus de choses. Je viens de déménager, donc c'est les priorités. Mais comme d'habitude, sur LinkedIn, directement sur GitHub, le classique, rien de fancy pour l'instant. Et toi, Julien ?
Elle est classico. pour moi, toujours sur julien.deret.fr, c'est là que vous retrouverez tous mes liens et tous mes projets. Merci d'avoir écouté Agilist. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note, un commentaire, quelque chose, un feedback sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. On attend vos retours. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain, sans faute cette fois, pour continuer une folle discussion sur l'agilité. Salut Pierre.
Salut Julien.